Merci aux amis de l'association des vies et des pays d'art et d'histoire avec laquelle le Courrier des Balkans collabore régulièrement depuis déjà quelques années de m'avoir invité, même si c'est une invitation un petit peu sous forme de piège, puisque je dois aborder un sujet qui est par nature extrêmement polémique. En tout cas, c'est un sujet qui, non seulement dans les Balkans, mais partout en Europe et partout dans le monde, n'est pas un sujet neutre. L'histoire, le patrimoine, le regard que l'on porte sur l'existant, sur ce patrimoine qui est là, le regard que des peuples d'Europe et du monde portent sur leur passé, n'est jamais quelque chose de neutre, ni même d'objectif. Je crois qu'en la matière, l'objectivité n'existe pas. Je suis aujourd'hui journaliste de formation, je suis historien et je fréquente les Balkans depuis à peu près une bonne vingtaine d'années, on va dire. Donc je m'intéresse naturellement depuis longtemps à ces questions-là et je suis toujours partisan de la plus grande modestie en la matière. En ce sens qu'il faut bien comprendre que les relations que les sociétés entretiennent avec leur histoire est toujours une relation complexe, toujours une relation déterminée par les conditions politiques du présent. C'est vrai en Macédoine, c'est vrai dans tous les pays des Balkans, c'est vrai également en France ou dans n'importe quel pays du monde. Alors, mon premier point va être de m'interroger un petit peu sur cette notion même de patrimoine, parce que ce n'est pas une notion évidente. C'est une notion relativement récente. L'idée qu'il existerait un patrimoine et que ce patrimoine aurait une valeur intrinsèque qu'il faudrait conserver est partout dans le monde une idée plutôt récente. Et je dirais que quelque part, c'est une idée qui n'est pas logique. A priori, ce qui a de la valeur, ce qui marche bien, ce qui est pratique, c'est ce qui est neuf. C'est beaucoup plus utilisable, c'est plus simple. Pourquoi s'embêter avec des vieilles choses ? Qu'il s'agisse d'objets de la vie quotidienne ou de bâtiments. C'est forcément une source de problèmes, et ce n'est pas à partir de vieilles choses qu'a priori on va pouvoir facilement projeter les dimensions de soi que l'on voudrait mettre en avant. Il est beaucoup plus gratifiant de construire, par exemple, un nouveau bâtiment majestueux qui montre la richesse, la force de celui qu'il construit, que de s'occuper de préserver une vieille baraque. Donc cette idée que ce qui est ancien aurait une valeur n'est pas une idée naturelle, et c'est dans l'histoire des sociétés européennes, je ne vais pas parler du reste du monde, c'est une idée plutôt récente. En Occident, les villes médiévales, par exemple, ont largement fonctionné sur une logique de réutilisation de ce qui était utilisable pour construire des choses nouvelles. On reprenait des vieilles pierres de monuments antiques, de monuments romains, pour construire de nouvelles églises ou de nouveaux châteaux. Et pour cela, on n'hésitait pas, bien souvent, à détruire ce qui existait pour utiliser ce qui avait de la valeur. Et ce qui avait de la valeur, c'était les pierres, éventuellement les colonnes, ou ce qui pouvait rester, ce qui pouvait être réutilisable. Dans les Balkans, les choses se sont passées exactement de la même manière. La ville ottomane, par exemple, a repris les bâtiments, les pierres, des monuments préexistants, qu'ils soient byzantins ou plus anciens. L'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est celui d'une ville qui, a priori, n'est pas aujourd'hui tellement connue pour son patrimoine ancien, qui est la ville de Pljevlja, au Monténégro. Cette ville de Pljevlja est intéressante parce qu'elle avait, jusqu'aux années 1950, un très riche patrimoine ottoman qui, depuis, a été presque totalement détruit. Mais ces bâtiments ottomans, dont on trouve encore quelques traces dans la ville, ont largement été construits avec les pierres ou les pierres tombales du municipe romain qui existait auparavant. Donc il y a cette logique de réutilisation qui est une logique tout à fait universelle, et les villes, toutes nos villes, fonctionnent, sont organisées avec ces traces, ces héritages successifs réutilisés sous la forme de ce que l'on pourrait appeler un palimpseste. Alors un palimpseste, c'est un mot un petit peu savant, mais c'est cette idée que derrière n'importe quel bâtiment, on peut lire, retrouver ce qui existait auparavant et qui a été réutilisé en permanence. Alors, dans le cas de l'Occident, il y a certainement deux moments qui sont déterminants dans la vision du passé. Il y a tout d'abord Je pense à un moment qu'on pourrait appeler la période classique, alors en France ça va être le XVIIe siècle, pour résumer, pour synthétiser, où il y a de manière très politique la volonté de copier l'ancien, de refaire aujourd'hui ce qui existait il y a 15 siècles, peu importe, une quinzaine de siècles, puisque ce moment romain, ce moment antique était perçu comme la référence absolue en matière de majesté, de splendeur. Et lorsque l'on construisait un palais, il fallait bien évidemment que celui qui construisait le palais, généralement le pouvoir politique, mais aussi des riches personnages privés, voulaient mettre leur propre grandeur au niveau de cet archétype, de ce modèle présent dans les, dominant dans les représentations culturelles. Puis il y a un autre moment qui est ce qu'on pourrait appeler au fin du XVIIIe siècle, début du 19e siècle, le tournant romantique où justement apparaît cette idée que le passé, alors un passé qui est toujours reconstruit intellectuellement, qui fait l'objet d'un discours, aurait une valeur en soi, aurait une valeur intrinsèque, et au lieu d'essayer d'imiter, de refaire ce qui a existé, la bonne solution serait au contraire de retrouver ce qui serait toujours là pour le mettre en valeur. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit toujours de discours, on est dans l'ordre des réécritures intellectuelles du passé, en permanence. Dans le cas du patrimoine, et cette notion de patrimoine, elle va se développer justement durant cette période romantique, on aboutit au terme du processus aux travaux de rénovation, entre guillemets, d'un architecte français comme Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a reconstruit des châteaux médiévaux, a reconstruit des églises, en étant convaincu qu'il les restaurait telles qu'elles auraient existé. Aujourd'hui, c'est facile pour des archéologues, pour des architectes, de dire « mais non, il a fait n'importe quoi, il a projeté sa vision du Moyen-Âge et il a construit quelque chose d'autre. » Alors quelque chose qui, pour le coup, a aussi une valeur intrinsèque. C'est pas là-dessus que je veux insister, c'est plutôt sur le fait que l'approche de Viollet-le-Duc s'inscrit fondamentalement dans un discours idéologique sur le passé. La révolution qui est apportée durant cette époque romantique, c'est l'idée qu'il faudrait revenir à une authenticité du passé. Mais en réalité, il n'y a jamais d'authenticité. Et la notion d'authentique est une notion qui n'existe pas, je crois, certainement pas en histoire, mais je ne crois pas non plus en archéologie, même si je ne suis pas archéologue. Il y a toujours un discours intellectuel, une construction et une mise en perspective de ce passé en fonction de critères contemporains. Dans le cas des Balkans, il est certain que le patrimoine a été particulièrement malmené. Particulièrement malmené de deux manières. Si vous lisez une des plus grandes, des plus classiques descriptions des Balkans au XVIIe siècle, je pense au récit de voyage d'un voyageur turc, Evliya Çelebi. Et si vous comparez les Balkans d'Evliya Çelebi aux Balkans du début du XXIe siècle, il est difficile de retrouver ce dont parlait Evliya Çelebi, qui évoquait par exemple Belgrade, la ville aux 100 mosquées. À Belgrade, il reste une mosquée qui encore a été endommagée en 2004. De même, on peut lire les voyageurs français ou de tous les pays qui ont circulé dans la région, là aussi, leurs descriptions sont très éloignées de ce que l'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, il y a eu une série d'événements particuliers. Je pense qu'il faut, en tout premier lieu, évoquer les guerres qui sont naturellement destructrices, par nature, pour le patrimoine. La ville de Belgrade, que j'évoquais, a effectivement un patrimoine ancien très limité, mais parce que Belgrade est assurément la capitale européenne qui a été le plus souvent assiégée et détruite. Donc, par définition, il ne reste pas grand-chose, hormis certains éléments du Kalemegdan, mais même là, entre ce qui est ancien et ce qui a été rajouté à différentes époques, le Kalemegdan de Belgrade, la forteresse de Belgrade, est un immense palimpseste. Ces guerres, je ne vais pas les citer, il y en a eu, vous le savez, malheureusement, beaucoup dans la région au cours des 150 dernières années, ont toujours eu cette dimension de s'attaquer au patrimoine. C'est vrai également des dernières guerres, des guerres de la fin du XXe siècle. Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les attaques contre le patrimoine ont été particulièrement importantes. Alors, il s'agit principalement, en l'occurrence, d'attaques perpétrées par les nationalistes serbes de Bosnie-Herzégovine qui ont détruit le patrimoine ottoman, les mosquées de villes. On pourrait citer Banja Luka, on pourrait citer Foča, on pourrait citer beaucoup de villes où, là où se trouvait autrefois une mosquée, il y a aujourd'hui soit un parking, soit une mosquée moderne en reconstruction, puisque aujourd'hui, bien sûr, on reconstruit ce qui a été détruit. On pourrait également citer le cas de la ville de Dubrovnik avec cette phrase fabuleuse qui est souvent citée d'un responsable serbe qui dit « mais c'est pas grave, on reconstruira Dubrovnik plus belle qu'elle n'était et plus ancienne ». Je ne sais pas si la phrase est authentique, mais elle est souvent citée et je crois qu'elle est intéressante pour bien comprendre que s'attaquer au patrimoine n'est jamais de l'ordre du hasard. C'est jamais ce que l'on appelle dans la novlangue contemporaine des dommages collatéraux. Les attaques au patrimoine sont souvent au cœur des projets guerriers, pas seulement dans le cas de la Bosnie-Herzégovine ou des Balkans, dans beaucoup d'autres cas dans le monde. Parce que le patrimoine a valeur de témoin, de signe, d'éléments du passé que l'on veut faire disparaître dans la reconstruction, dans le nouveau discours sur le passé que l'on veut mettre en avant. Il n'y a pas que les guerres. Le communisme a aussi joué son rôle avec la volonté de construire l'homme nouveau, et l'homme nouveau, naturellement, devait vivre dans des villes nouvelles. L'exemple, en l'occurrence, le plus célèbre, c'est celui de la destruction très récente, dans les années 80, d'une grande partie du centre ancien de Bucarest par le dictateur Ceaușescu, qui a construit à la place de ce centre ancien un palais qui devait signifier la gloire de son régime. Cette approche propre au régime communiste s'est retrouvée un petit peu partout, alors selon des formes et une intensité différentes. Il est certain que dans le cas de la Yougoslavie, cette volonté de créer une ville nouvelle a été beaucoup moins grande, à une exception près, qui est précisément la ville où nous trouvons, Skopje, avec cet événement particulier du tremblement de terre de 1963, qui a détruit objectivement une partie importante de la ville et qui a donné l'occasion au pouvoir yougoslave de l'époque d'essayer de construire alors une ville très moderne, qui devait symboliser la modernité du socialisme yougoslave, avec des résultats qui, objectivement, sont extrêmement intéressants. Je crois que Skopje n'a pas seulement sa vieille tcharchia, elle a aussi certains des bâtiments les plus intéressants de l'architecture de la seconde partie du XXe siècle. Alors, pour conclure un petit peu sur ce premier point, est-ce qu'il y aurait d'un côté des guerres, des régimes nationalistes, des régimes autoritaires comme le communisme, qui s'attaqueraient au patrimoine, qui auraient pour obsession, on pourrait dire, de détruire ce qui a existé pour construire quelque chose de nouveau? Et en face de cela, est-ce que l'on aurait des démocraties, de pays plutôt prospères, qui, en quelque sorte, seraient sortis de cette approche du patrimoine et auraient au contraire une approche plus respectueuse? Grosso modo, est-ce que les dictatures et les guerres seraient par nature destructrices du patrimoine et les démocraties par nature respectueuses et conservatrices de ce patrimoine? Je crois que cette vision en noir et blanc, cette vision manichéenne, n'est sûrement pas la bonne. Et il faudrait interroger beaucoup plus profondément, mais on n'a peut-être pas le temps de le faire, les relations au patrimoine dans des pays comme la France, où là aussi l'histoire est complexe. Et certaines évolutions sont extrêmement récentes. Et la volonté d'éradiquer certaines traces patrimoniales sont une tendance qui est, je crois, toujours présente, parce qu'il y a d'autres types de discours. J'ai envie de citer juste deux exemples. Un exemple qui est assez hallucinant. On pourrait comparer par certains aspects la ville de Skopje et la ville d'Angers. Angers a un des plus beaux châteaux de France, mais dans les années 70, on a fait une autoroute urbaine au pied du château. Et faire une autoroute urbaine, c'était un signe de modernité. C'était montrer la modernité de la ville d'Angers, avec des modèles culturels qui étaient ceux, je ne sais pas, de faire ressembler Angers à la Californie. Bon, sauf qu'en Californie, non, il n'y a pas de château médiéval, donc ça ne pouvait pas marcher, la présence de cette autoroute à côté d'un château. Mais ça prouve bien que ce fantasme de modernisation, il était aussi présent à une époque très récente dans un pays comme la France. L'autre exemple qui me vient en tête pour montrer à quel point les choses évoluent en fonction du contexte, c'est une partie, un aspect particulier du patrimoine, qu'est-ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine industriel. Jusqu'à une époque extrêmement récente, je parle là de quelques années, dans des pays comme la France et la plupart des pays occidentaux, ce patrimoine industriel, les usines, les mines du 19e ou de la première moitié du 20e siècle, étaient considérés comme des verrues qu'il fallait faire disparaître à tout prix. L'idée que ces vieilles usines, ces vieux docks, ces vieilles mines pouvaient avoir une valeur, cela pouvait avoir un sens de les conserver pour leur donner un autre usage, justement un usage patrimonial, c'est-à-dire un usage de signe de ce qui a existé. Et dans ces anciennes usines, aujourd'hui, on met des musées ou des centres culturels. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, qui traduit une évolution des sociétés occidentales, enfin du regard des sociétés occidentales sur leur passé. Mon second point, ça sera donc ce problème de la construction d'un discours sur le passé, puisqu'il n'y a jamais, en l'occurrence, de neutralité. Là, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, celui de l'architecture fasciste à Rome. Quand Mussolini prend le pouvoir, Rome était une ville qui avait besoin assurément de beaucoup de travaux, qui avait en même temps, ça paraît assez banal de le dire, un riche patrimoine. L'approche de Mussolini a consisté à construire des arcs de triomphe, à mettre des statues dans la ville, à créer une ville nouvelle qui devait permettre de relier la Rome nouvelle que le dictateur voulait construire à ce qui était pour lui la véritable Rome, c'est-à-dire la Rome glorieuse de l'Antiquité. Dans la logique politique qui sous-tendait la pratique architecturale de Mussolini, il y avait bien sûr l'idée que les époques intermédiaires, c'est-à-dire la Rome médiévale, la Rome baroque, n'avait pas de valeur, parce que c'était des périodes de décadence de Rome. De ce point de vue-là, le propos de Mussolini était extrêmement politique, et il voulait rattacher son approche politique à ce passé antique glorieux. Bien évidemment, on sait comment l'aventure mussolinienne s'est terminée, construire des arcs de triomphe n'a jamais assuré à long terme la stabilité d'un régime. En tout cas, ça ne suffit pas. Dans le cas des Balkans, il y a toujours aujourd'hui beaucoup d'atteintes permanentes, tous les jours, contre le patrimoine. On pourrait citer, c'est l'exemple qui vient le plus spontanément en tête, le cas du Kosovo, avec la destruction d'une bonne partie du patrimoine religieux serbe-orthodoxe du Kosovo. Il y a eu à peu près une centaine d'églises de monastères qui ont été soit vandalisées, soit endommagées, soit totalement détruites en 1999, et une vingtaine d'autres qui ont été attaquées lors des émeutes de mars 2004. Et il y a toujours, de manière récurrente, des agressions contre le patrimoine. Alors, de quoi s'agit-il ? Je pense que derrière ces attaques, ces destructions de monastères, il y a au moins, dans la société albanaise, trois niveaux de discours, trois réponses. Il y a bien sûr des éléments extrémistes qui pensent qu'il faut faire disparaître toute trace de la présence serbe et de la présence orthodoxe, et que pour cela, il faut détruire les monastères. Je suis convaincu que les courants qui pensent cela sont tout à fait minoritaires. Ce sont des petits groupes d'extrémistes qui sont agissants, et c'est eux qu'on voit le plus, parce que c'est eux qui font des choses, mais ils sont assurément très minoritaires. Il y a un autre discours qui consiste à dire que c'est bien sûr dommageable de détruire des monuments anciens, parce que c'est le patrimoine commun du Kosovo, ce qui est une évidence. Un monument religieux appartient à tous les citoyens qui vivent dans un territoire donné, même si par exemple ils ne pratiquent pas cette religion. Ça paraît assez évident. C'est pas forcément toujours si évident que ça dans la réalité des faits. Mais ce discours qui va donc condamner les destructions se décompose de deux manières. Une première approche du discours consiste à dire, voilà, c'est un crime parce que c'est le patrimoine commun. C'est notre patrimoine commun, nous, citoyens du Kosovo, que nous abîmons. Il y a un autre discours très présent qui consiste à dire, oui, ce n'est pas bien, d'autant plus que ces monastères orthodoxes ont été construits sur les fondations d'églises ou de monastères catholiques plus anciens. Catholiques, sous-entendu, albanais. Pour décomposer ce discours, la vision est celle est la suivante. Elle consiste à dire que les Albanais, avant leur conversion partielle mais importante à l'islam, étaient chrétiens, étaient a priori catholiques. On pourrait rentrer dans une discussion sur l'influence réelle de Byzance, de Constantinople, de Rome dans les Balkans au Moyen-Âge, c'est assez complexe, mais on peut effectivement, pour résumer, dire que les Albanais au XIe, XIIe, XIIIe siècle étaient plutôt catholiques, plutôt liés au christianisme occidental. Ce discours suppose également que les Albanais habitaient, peuplaient le Kosovo durant ces époques-là, et que ce sont donc eux qui ont construit les premiers monuments du Kosovo, et qu'ensuite, les Serbes sont arrivés tardivement, et ont donc imposé leur structure religieuse, éventuellement en reprenant des monuments préexistants. Alors, a priori, oui, c'est certainement en partie vrai. Et là, j'en reviens à cette logique qui est une logique universelle de la réutilisation du palimpseste. Bien évidemment qu'il y a eu reprise de monuments préexistants à tout moment, y compris au Kosovo. Mais derrière ce discours qui se veut, qui peut se présenter comme un discours archéologique, comme un discours technique, comme un discours neutre, il est évident qu'il y a toute une vision du passé du Kosovo qu'il s'agit d'imposer, ou en tout cas de mettre en avant. Juste pour évoquer un petit souvenir, une petite impression personnelle, j'étais il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 mois, sur les sites de fouilles d'Ulpiana, à côté de Pristina. C'est dans l'enclave serbe aujourd'hui de Gračanica. Et il y a notamment une magnifique basilique paléo-chrétienne qui a été mise à jour. À côté, il y a plusieurs cimetières. Et tout cet été, les fouilles ont beaucoup avancé. C'est un de mes amis archéologues, Kemal Yutsi, qui mène ses fouilles. Il y a plusieurs cimetières qui sont en train de s'ouvrir. Et j'étais là avec lui, avec Kemal, qui dirige les fouilles, et on voyait ces tombes s'ouvrir. On était dans cette enclave serbe du Kosovo. Je me posais bien évidemment la question, enfin, je me demandais, mais bon, ces gens-là, ces squelettes que l'on voit, est-ce qu'ils étaient serbes? Est-ce qu'ils étaient sûrement pas? Parce que les Serbes n'étaient pas arrivés dans les Balkans à l'époque. Est-ce qu'ils étaient albanais? Quelle langue parlaient-ils? Je crois qu'on n'en sait rien. Je crois qu'on n'en sait rien. Et je trouvais une certaine forme de l'ironie de l'histoire à voir aujourd'hui un archéologue albanais mettre à jour ses tombes dans cette enclave serbe. Et quant à cette basilique paléo-chrétienne, est-ce qu'elle était catholique ou orthodoxe? Il faut quand même rappeler que la question est absurde avant le schisme officiel entre les deux églises. Donc ce discours consistant à dire « ça c'est à nous » est un discours qu'il est très facile de démonter d'un point de vue historique. En réalité, si l'on regarde les pratiques patrimoniales aujourd'hui dans beaucoup de pays des Balkans, on constate 2 tendances lourdes. Une tendance consiste à essayer de reproduire l'archétype d'un passé défini une fois pour toutes. C'est notamment le cas dans les constructions religieuses orthodoxes, où, hormis le cas presque unique de la splendide cathédrale de Skopje, il y a peu d'églises orthodoxes qui soient innovantes sur le plan architectural. À Trebinje, en Bosnie-Herzégovine, il y a 10 ans exactement, on a construit une nouvelle Gračanica, la Gračanica d'Herzégovine, qui est une copie en petit de Gračanica du Kosovo. Il est facile, et il y a aussi d'autres Gračanica en Amérique et dans quelques endroits du monde. Alors il est facile de dire que ce type de construction sont kitsch, parce que bien évidemment, quand on va vouloir reproduire à l'identique en 2000 ou en 2010 un monument du XIVe siècle, on risque très souvent de faire du kitsch. Bon, on pourrait s'interroger sur ce que cette notion de kitsch veut dire, mais en tout cas c'est celle-là qui viendra forcément à la tête, en tout cas, de beaucoup de personnes qui regardent ce monument. Je pense qu'en réalité, c'est une approche qui consiste à définir un modèle du bâtiment ancien comme un archétype dont on ne peut pas sortir, qu'il faut reproduire soi-disant à l'identique, en sachant bien que la notion de reproduction à l'identique est une notion fallacieuse. C'est impossible, parce que les techniques de construction sont différentes, parce que les matériaux sont différents. Donc ce que l'on voudra faire à l'identique ne sera toujours qu'une assez, qu'une plus ou moins bonne copie, souvent, malheureusement, assez mauvaise. Et puis l'autre élément structurel de cette approche des sociétés des Balkans au passé, c'est toujours le fantasme d'occidentalisation et de modernisation. Il y a une approche qui consiste, dans beaucoup de villes des Balkans, à essayer de reproduire ce qui existerait en Europe occidentale. Là, il est facile d'évoquer beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur cette manière dont des sociétés qui se trouvent en position de périphérie essaient de copier ce qu'elles perçoivent comme le juste modèle. Je pense bien sûr à l'approche et à la définition de l'orientalisme telle qu'elle a pu être exprimée par des auteurs très importants. Cette idée que des territoires, des régions qui, par l'histoire, ont été placées en situation sociale et économique de périphérie, c'était le cas bien évidemment des mondes qui ont été colonisés, mais c'est en partie aussi le cas de l'ensemble des pays post-communistes aujourd'hui, qui estiment que leur avenir ne peut se situer non seulement que dans l'Union européenne, que dans l'adoption de modes de fonctionnement et de critères occidentaux qui demanderaient à être définis, or ils ne le sont pas, et qui pensent donc que dans cette logique-là, il faut faire ce qui existerait ailleurs, il faut copier ce qui existerait ailleurs, mais là aussi, on arrive toujours sur des copies avec ce risque énorme du kitsch. Je t'ai pas de minutes à manger. Et je vais terminer sur le troisième point, qui est ce problème de la nécessaire réconciliation des sociétés des Balkans avec leur passé, en sachant que c'est toujours quelque chose, comme je l'ai dit, d'extrêmement difficile. L'enseignement et l'étude de l'histoire n'est pas une science neutre et ne l'a jamais été, ne l'a pas été non plus en Europe occidentale. Au XIXe siècle et encore durant une bonne partie du XXe siècle, les historiens, en France, en Allemagne, dans tous les autres pays, étaient définis et se définissaient eux-mêmes comme des ingénieurs de la nation, devant construire le discours de la société sur son passé, discours qui devant figurer à la base de valeurs nationales à définir. Les historiens ont donc toujours été non seulement des témoins de leur temps, mais des forgeurs de ce discours très politique sur le passé. C'est toujours vrai dans les Balkans, en sachant que un des gros problèmes, c'est qu'il y a peu de communication entre la recherche historique dans les différents pays de la région. Il y a quelques tentatives, je ne vais pas les citer, le temps là encore une fois me manque, mais a priori, on est toujours fondamentalement dans cette logique où l'étude de l'histoire doit servir à justifier les nations avec cette particularité des Balkans qui est que les États sont des États jeunes. Jeunes, mais avec du coup deux obsessions intellectuelles et idéologiques. L'une, c'est d'affirmer la continuité d'États redevenus indépendants il y a 20 ans avec des États qui auraient existé précédemment. J'avais vécu un moment à Sarajevo, au moment du basculement dans la guerre, en 1991-1992. Je me souviens d'affiches qui étaient apparues peut-être début janvier 1992, un petit peu partout à Sarajevo, et qui proclamaient la continuité de l'État bosnien. Une continuité entre le XVe siècle et l'État qui proclamait son indépendance au printemps 1992. Et ces affiches marquaient ce terme continuité avec les sceaux des rois de Bosnie du Moyen-Âge, de Tvartoko et des autres, et puis tout en bas, au terme de ce processus, le blason du nouvel État bosnien. Ce que cette affiche voulait dire, c'est que ces 5 siècles qui s'étaient écoulés entre la destruction de l'État de Bosnie et sa résurgence à la fin du XXe siècle n'étaient qu'une parenthèse, un accident de l'histoire, quelque chose au bout du compte que l'on pourrait assez utilement oublier. L'obsession de la continuité est un des premiers thèmes majeurs dans la région. L'autre aspect, c'est la quête des origines, avec là quelque chose Alors cette quête des origines, c'est un sujet qui a agité l'historiographie de tous les pays européens. En France, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a eu, par exemple, sur les origines gauloises et les origines franques, des débats extrêmement vifs. Par exemple, pour certains historiens, l'aristocratie, la noblesse française, descendait des Francs, donc des Saxons, des peuples germaniques qui sont arrivés après la chute de l'Empire romain, tandis que les roturiers descendaient des Gaulois. Donc cette question des origines est une question qui a toujours, dans tous les pays, qui est une question éminemment politique et polémique. Dans le cas des Balkans, on pourrait citer les exemples, les origines, l'affirmation par exemple des origines illyriennes des Albanais, ou bien l'idée de la continuité daco-roumaine, c'est-à-dire le lien entre la Roumanie et les Daces de l'Antiquité. Je ne vais pas m'étendre, développer ces différents thèmes et ces différentes traditions historiographiques. Juste, quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu ? Quand on dit que mon peuple descend de tel peuple ancien, c'est affirmer des droits préférentiels, voire des droits exclusifs sur tel ou tel territoire. Au XIXe siècle, il y avait un historien grec, Constantin Rigopoulos, qui disait que pour savoir à quel territoire devait appartenir, à quel peuple, à quelle nation devait appartenir tel ou tel territoire dans les Balkans, il ne fallait surtout pas faire de la démographie, compter le nombre de gens, mais interroger l'histoire et retrouver qui, dans l'Antiquité, qui, à l'époque la plus ancienne possible, habitait sur ce territoire. En supposant, bien évidemment, que les peuples contemporains avaient une relation unique et exclusive avec tel ou tel peuple de l'Antiquité, ou de la préhistoire. Naturellement, les Balkans, mais ça c'est vrai de toute l'Europe, sont une terre de mélange et de brassage, où il est a priori impossible ou fallacieux de revendiquer une descendance exclusive avec tel ou tel peuple. Et je vais conclure, si Madame Popovska me laisse encore une toute petite minute, sur un point que j'ai évoqué rapidement, ce que j'ai évoqué à propos de ces cinq siècles en Bosnie-Herzégovine, qui est, je pense, un des problèmes majeurs des peuples des Balkans, qui est la relation et le regard qu'ils portent sur l'époque ottomane. Parce que dans toutes les traditions historiographiques, que ce soit la tradition historiographique ici en Macédoine ou en Serbie ou en Albanie, peu importe, a priori l'époque ottomane, c'est le joug ottoman, c'est l'occupation, c'est la stagnation. Les valeurs qui sont associées à cette période sont toutes entièrement négatives. Il suffit d'ouvrir n'importe quel manuel scolaire. Or pourtant, la ville balkanique, les villes balkaniques anciennes, sont des villes avant tout marquées par la marque ottomane. La culture quotidienne, les mots, même dans toutes les langues balkaniques, les mots du quotidien sont très largement des mots hérités du turc. Dès qu'on parle de nourriture, d'habillement, sont des mots turcs, aussi bien en albanais, en serbe, en macédonien ou en roumain. Les traditions culinaires. Donc, dans les sociétés balkaniques actuelles, vouloir escamoter ces cinq siècles ou cinq siècles et demi de passé ottoman pose un énorme problème. Si on considère que c'était une période de régression, une période extérieure à l'évolution normale de la nation, nation définie comme un objet préexistant et éternel, du coup, comment aujourd'hui, à la fin, au début du XXIe siècle, comment positionner cette nation dans son passé? Il n'y a plus guère que deux possibilités. Soit effectivement le kitsch de retrouver un passé antérieur en le copiant d'une manière plus ou moins maladroite, ou bien tomber dans ce qu'on pourrait appeler ce fantasme d'une modernisation conçue sur le mode d'une copie de modèle occidental, qui est une approche qui relève d'une vision, et je vais employer un mot très fort en espérant ne pas trop vous choquer, une vision de coloniser. C'est-à-dire quand on fonctionne sur ce fantasme de l'Occident, on se place soi-même en position d'infériorité. Je crois au contraire, et je vais conclure là-dessus, que cette richesse historique, humaine, extraordinaire de tous les Balkans pourrait surprendre l'ensemble de l'Europe, mais à une condition qui serait que tous les peuples des Balkans se réconcilient avec tous les éléments de leur histoire, et notamment cette longue période ottomane, d'en comprendre la richesse sur le plan patrimonial, mais pas seulement, et d'avoir une approche dépassionnée permettant aussi de retrouver ce qui est commun, ce qui est commun dans la différence. Au bout du compte, et là je vais vraiment faire de la provocation, mais tant pis, je termine, après vous pourrez me dire tout ce que vous pensez de ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a de plus commun à la nation albanaise, à la nation macédonienne, à la nation grecque? Je crois bien que c'est ce passé ottoman. Donc ce passé ottoman pourrait être le gage d'une vraie réconciliation dans le respect des différences des uns et des autres. Je vais m'arrêter là.